Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'accueille Eric qui va nous partager son histoire de vie très touchante et forte en rebondissements. Eric était au sommet avec un métier, un salaire et une vie de rêve. Il était pilote de ligne reconnu, conduisait les plus gros avions du monde, avait un salaire plus que confortable et un train de vie luxueux. Il vivait à l'étranger et avait créé un cocon familial idyllique. Mais malheureusement, sans trop le prévenir, sa vie va prendre un tout autre tournant. Suite à un enchaînement de mauvaises nouvelles, il va tout perdre, presque du jour au lendemain, et se retrouver sans rien. Mais il s'est pas laissé abattre et garde le sourire. Il est ici pour vous partager son histoire incroyable. Bienvenue Eric.
Bonjour Zoé et merci bien de me recevoir aujourd'hui ici pour raconter mon histoire qui est une exclusivité puisque je ne l'ai jamais racontée à personne.
On est en exclu.
À part mes enfants qui ont vécu cela avec moi. Et donc, je tenais à te remercier infiniment de m'avoir
avec
invité.
Avec plaisir, voilà. Avec plaisir. Est-ce que ça va? Tu te sens bien? Tu es confortable dans ton siège?
Je me sens bien, confortable. Un tout petit peu de stress, parce que parler comme ça de soi-même devant des milliers de personnes, peut-être même plus, c'est toujours un peu stressant. Et voilà, j'espère que mon histoire intéressera beaucoup de monde et qu'ils pourront en tirer peut-être une leçon de vie. Qui sait, ouais. Je ne sais pas, je peux te donner quelque chose à beaucoup de gens qui leur éviteront de tomber dans ce genre de mauvaises histoires, on va dire.
Est-ce que tu peux te présenter et nous faire un peu un portrait?
Donc, je m'appelle Eric Gilles, je suis né à Draguignan, dans le Var. J'ai 64 ans, je suis né le 6 juin 1959. Et donc, je suis papa de 3 enfants, Louis le premier, Carla et Andrea, qui est née au mois d'août 2011. C'est une longue histoire. Je suis d'origine italo-espagnole, de parents immigrés. Et ça, c'est mon origine au départ. Donc,
okay.
J'ai deux origines italo-espagnoles.
Et tu avais un rêve de métier? Il y avait quelque chose?
Mon rêve depuis tout petit, en fait, ma maman me disait que je me mettais sur le tabouret de la cuisine. On avait un petit tabouret qui, à l'époque, était en formica. C'était la mode de l'époque. Hein. Je me mettais à plat ventre sur le tabouret. J'écartais les pieds et les mains et je disais « je suis l'homme volant ».
Ah ouais?
Donc, ça, c'était le... C'était pour l'histoire. Et puis, au premier étage, nous avions un petit balcon qui n'avait pas de garde-corps. Et je prenais le parapluie et je sautais avec le parapluie dans la rue pour faire le parachute.
Ah, t'avais pas peur?
Non, j'avais pas peur du tout. J'étais un peu casse-cou. On était un peu des casse-cou, voilà. C'est ça.
T'es devenu après pilote de ligne, donc en fait, ça t'a suivi, quoi, cette envie de sauter dans l'air.
Voilà, c'est un peu, au départ, c'était pas gagné. Alors, devenir pilote, c'est toute une histoire de vie, c'est une longue vie. Et donc, de cette rue-là où nous étions tous les enfants, puisque à cette époque-là, être enfant d'immigrés, ça supposait beaucoup de choses. Ça supposait que les parents n'étaient pas là, ils travaillaient. Et donc, quand les parents sortaient travailler, ils mettaient les enfants dans la rue et on s'éduquait, on s'élevait dans la rue, avec les bons et les mauvais côtés. Donc, les mauvais côtés sont ceux de devenir voyous et pas gentils dans la société, on va dire. Et les bons côtés, c'est qu'on se fait par soi-même et puis on apprend à prendre notre place et à se battre comme un lion pour devenir quelqu'un. Alors, le mauvais côté, on va l'occulter parce que ce n'est pas intéressant. Et puis, on n'est pas là pour parler de ça. J'y ai échappé, donc c'est l'essentiel. D'autres n'y ont pas échappé et en ont subi les conséquences et se sont retrouvés dans des endroits en prison. Donc. Mais les bons garçons que nous étions avons échappé à ça. Et moi, après, je suis devenu parachutiste au 35e régiment d'artillerie parachutiste. Donc ça, c'était le départ, on va dire, puisque... À l'école, on n'était pas mauvais, mais on n'aimait pas travailler. Et donc, les diplômes, on ne les a pas eus. Et quand on a voulu s'insérer dans la vie, on nous a dit, ben non, vous êtes trop idiot pour aller faire pilote de chasse dans l'armée ou ceci ou cela. Donc, on avait peu d'options. Donc, moi, mon option, c'était d'aller chez les paras. Et à 18 ans, je suis parti chez les parachutistes en pensant que j'aurais pu peut-être devenir pilote. Je me suis dit, si on peut sauter en parachute, on se rapproche des avions. Mais c'était là qu'une idée un peu saugrenue, je dirais, parce que quand on est parachutiste, on ne peut pas devenir pilote.
Mais tu es devenu pilote quand même.
Je suis devenu pilote après. Comment t'as fait ? Et dans l'armée, je ne suis pas devenu pilote. J'ai fait mon montant, j'ai fait un an et demi d'armée. Mm-hmm. Et puis, j'ai vu que je ne serais jamais pilote dans l'armée, parce qu'on ne peut pas sauter du parachutiste à l'armée ça. C'est pas... On peut sauter, mais de l'avion, c'est tout.
Oui.
Donc, j'ai quitté l'armée. Et puis là, s'en est suivi une longue traversée du désert, si je puis dire, parce que je n'avais pas le bac. J'étais prêt à travailler beaucoup pour réussir, mais je n'y arrivais pas. Donc, j'ai fait sans métier, sans misère. Et c'est passé par... Bon, je peux le dire aujourd'hui, j'ai fait serveur dans les restaurants, j'ai fait portier d'hôtel en Suisse, j'ai fait casserolier, j'ai nettoyé les casseroles, des casseroles énormes où je rentrais entier dedans, par exemple. J'ai fait même ça, je l'ai dit à mes enfants, ils en ont bien ri, j'ai fait du striptease sur la Côte d'Azur.
Ah oui, ah oui, t'as vraiment fait tout, voilà. Alors, tout est possible.
L'histoire du striptease est un peu spéciale, c'est que j'ai rencontré une personne à un moment donné à un café. Bon, à l'époque, j'avais un peu moins de kilos superflus, donc c'était plus facile à se montrer, je dirais, à faire de l'exhibition. Et donc, j'ai fait ça pendant une saison, c'était trois mois.
Bon. On a interviewé une stripteaseuse ici.
C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Et j'ai eu la chance, un jour, de tomber sur une annonce en disant « Devenez, en gros, pilote de ligne, l'école machin. » Alors, c'était l'Institut aéronautique Amaury de Lagrange. Alors, ce n'était pas des pubs comme aujourd'hui. Il fallait aller sur des... Alors, ce n'était pas des sites internet puisque ça n'existait pas encore. Il fallait aller sur des livres, des magazines, des revues d'État gouvernemental qui étaient données par la NPE. Et ce genre d'organisme d'État. Et donc, il mentionnait que le gouvernement pouvait payer ces études-là de pilote de ligne. Okay. Alors, je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire. Donc, j'avais tout juste 21 ans, quelque chose comme ça. J'étais encore dans les normes d'âge. Je me suis inscrit, j'y suis allé. Et quand je suis arrivé à l'école, donc, puisque l'État payait, donc, j'ai menti.
Voilà. Ah.
Alors, je suis mea culpa parce que j'ai menti. Donc, ma vie s'est faite sur un mensonge, on va dire.
Tu leur as dit quoi ?
Je leur ai dit que j'avais le baccalauréat alors que je ne l'avais pas.
Et ils n'ont pas cherché plus loin ?
Alors, comme il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de communication, le diplôme, il fallait l'emmener en vrai, je dirais, en papier. La secrétaire de direction, je me souviens de son nom, elle s'appelait Madame Lempereur. Elle me dit « Ah, mais je n'ai pas votre baccalauréat ». Et je lui ai dit, ben non, je ne l'ai pas, je l'ai oublié, je suis désolé. Les cours commençaient la semaine suivante. Hein. Je lui ai dit, ben là, on est au mois de septembre, je vous l'emmènerai pour Noël quand je rentrerai à la maison. Elle dit, bon, mais ok, bon, je note que vous l'emmenez à Noël. Et moi, j'ai commencé les cours, mais je travaillais du style genre 16 heures par jour, 17 heures par jour. C'était ma dernière chance. Obtenir un diplôme d'équivalence baccalauréat, même de niveau 2, je crois. Donc, j'étais content et je travaillais d'arrache-pied toujours. Et donc, après 2 ans comme ça, parce que j'ai tenu quand même en 18 ou 19 mois ou 20 mois, quelque chose comme ça, j'ai toujours dit que j'avais oublié le diplôme. Donc, après, c'est devenu une routine acceptée.
Ouais.
Mais j'ai eu mes diplômes de pilote de ligne.
D'accord. Et directement après, du coup, tu as commencé à travailler.
Donc, comme j'avais ça, je me suis dit, voilà, ben maintenant, voilà, elle ne m'a plus demandé le baccalauréat parce que j'avais un diplôme d'études supérieures, donc par rapport au baccalauréat. Et donc après ça, il fallait beaucoup d'argent pour suivre la formation pratique, puisque là, c'était la formation théorique. Et donc, comme je n'avais pas d'argent, j'ai recommencé à travailler.
Donc tu fais étape par étape, quoi. D'abord le diplôme, après tu retravailles pour payer ensuite la pratique.
Exactement. Donc j'ai recommencé ce que je savais faire, donc barman, serveur. Donc je faisais les saisons d'hiver et d'été sur la Côte d'Azur et puis à Val d'Isère l'hiver. J'ai eu l'occasion d'aller au Canada aussi pour faire des heures de vol. Donc parce que après en gagnant ma vie, j'avais un peu d'argent, donc je me suis payé des stages. J'ai passé une année au Canada, au Québec.
La pratique, c'est quoi ? Tu dois faire un certain nombre d'heures pour qu'ils te valident en gros ton diplôme ?
Exactement. Voilà, c'est ça. Tu as tout à fait raison de dire ça. Donc, ces heures-là, c'était 250 heures de vol. Comme les heures de vol étaient très chères en France par rapport au prix de l'essence et du carburant, au Canada, c'était beaucoup moins cher. Donc, je suis allé monter mes heures, comme on dit dans la profession, pour avoir ces fameuses 250 heures.
OK.
Une fois arrivé à ces 250 heures, et j'ai commencé mon premier travail en 86 comme remorqueur pilote de banderole. Sur la Côte d'Azur.
Voilà. Ok, donc tu conduisais les petits avions avec les banderoles derrière.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'était très bien payé. C'était nourri, logé. On habitait sur une caravane sur l'aérodrome de Fréjus à l'époque. Et ce travail était un travail de pilote, mais très dangereux. Mmh. J'ai perdu quelques amis qui se sont tués en avion, hein, à ce moment-là, parce que le vent, pas de moteur, voilà, des erreurs de pilotage peut-être aussi, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, il y a eu pas mal d'erreurs. Et dont un accident qui m'avait beaucoup marqué, c'était l'accident de ma patronne avec un copain, qui se sont percutés en vol et qui sont tombés dans la baie de Saint-Raphaël ce jour-là. C'était... Voilà. Donc, c'est un métier qui était difficile et dangereux. Après ça, je suis devenu instructeur, pilote d'avion, et je suis parti travailler à Paris.
Et donc, après, tu as fini, tu as gravi les échelons. Et ouais. Le dernier... Enfin, là où c'était ta consécration vraiment pour toi, c'était à quel stade, on va dire ?
Alors, à Paris, instructeur, c'était une bonne manière de m'insérer dans le milieu parisien et les connexions parisiennes. Et donc, tous ces gens que j'ai connus, qui étaient instructeurs avec moi, sont partis chez Air France après. Moi, comme je n'avais pas le diplôme du bac, puisque Air France demandait un diplôme d'études supérieures, le baccalauréat plus un diplôme d'ingénieur, en tout cas quand j'aurais pu postuler, et que je n'avais pas. Donc pour moi, Air France était hors de question. Donc je me suis orienté vers l'aviation d'affaires et j'ai pu... Alors ça, quelque part, ça m'a aidé pas mal parce que cette aviation d'affaires, j'ai commencé par de toutes petites compagnies où on volait des petits avions... On volait, je veux dire, j'étais pilote sur les avions. Voler, c'est le terme de pilote générique. Voilà. On volait sur des avions turbopropulseurs, des biturbopropulseurs du style King Air, des choses comme ça. Et donc, on emmenait des hommes d'affaires à travers l'Europe.
D'accord, ok.
Et de là, j'ai rencontré une personne qui a mis un tournant dans ma vie quand même. Je vais le citer parce que c'est important pour moi. Et si un jour il écoute le podcast, je lui ferai un petit coucou. Il s'appelle Pascal Magne et il a été assez déterminant parce qu'il était pilote privé d'un homme, une des premières fortunes de France aujourd'hui. Donc il m'a pris avec lui sous sa coupe et je suis devenu donc ce pilote-là avec lui, son copilote. On était deux, les deux pilotes de ce monsieur très riche. Et ce monsieur-là était très ami avec... cet homme-là qui était notre premier ministre de l'époque, il s'appelait Jacques Chirac. Lui, je peux le nommer puisqu'il a été Jacques Chirac et est devenu notre président pendant quelques années. Et donc, j'étais pilote de Jacques Chirac pendant sa campagne en 88, pendant 2 ans. Extraordinaire.
Tu as fait combien de temps tu as travaillé en France après ?
Donc, en tout, j'ai travaillé 11 ans en France parce qu'après ce passage en aviation d'affaires, et alors donc... Ce passage de personnes VIP que j'ai transporté m'a permis, si tu veux, de pouvoir postuler après dans une compagnie qui se créait, qui s'appelait Air Outre-mer, qui est devenue AOM. Et donc là, je suis devenu copilote sur des avions de ligne.
Okay.
Et donc, je me suis retrouvé, j'avais jamais eu ça, moi, des hôtesses de l'air.
Les gros 300, avions, on comprend,
300
pour
passagers,
partir.
Voilà, c'était un DC-10, un énorme avion. Et je me suis retrouvé aux commandes comme copilote, en fait, de ça, avec des gars qui étaient des anciens, des commandants de bord très, très chevronnés. Hein. Quelques années après ça, ils m'ont proposé de faire commandant de bord. Donc, ils m'ont mis en stage de commandant de bord. Et un stage qui a duré un peu plus d'une année. Et ma consécration comme commandant de bord, j'avais 36 ans. Voilà.
Ah ouais, voilà. Trop bien.
Et j'étais le plus heureux. Alors, à ce moment-là, ma maman était encore en vie. Je vais avoir une émotion qui monte, excuse-moi.
T'inquiète, pas de souci, je prends ton temps. T'inquiète, il n'y a pas de problème.
Et elle était très fière de ça. Si j'ai réussi, c'est grâce à elle. Parce que, tu vois, si je reviens en arrière, quand on faisait vraiment des choses qui n'étaient pas catholiques, on va dire, ou pas réglo... un jour, elle m'a pris à part et puis elle m'a dit « tu es la seule fortune que j'ai au monde, surtout ne me déçois pas ». Et ça a été la phrase qui a changé ma vie parce que 2 mois après, je m'engageais dans les parachutistes. Voilà, je me suis dit « si je ne prends pas une bonne claque dans la vie et que je ne m'engage pas dans un endroit qui me redresse, je vais mal finir ».
Voilà. C'est trop chou. Donc, tu as fait ta petite vie comme ça en France. Tu faisais tes petits vols, tu transportais
voilà, donc,
les gens.
J'étais à l'époque, donc je venais de connaître la maman de mes enfants d'aujourd'hui.
Et tu aimais bien ton métier à ce moment-là. Tu vivais la vie.
Donc, à ce moment-là, je vivais la vie de rêve. J'avais une femme que j'aimais, un premier enfant. Et donc, ces 11 années passé comme commandant chez AOM se sont terminées le jour où la société a fermé pour des raisons économiques. Et donc, je me suis retrouvé dans le premier plan social. Je me suis retrouvé donc à la porte.
Comment t'as rebondi ? Comment t'as retrouvé une autre solution ?
Donc, la solution, elle était simple, c'était d'aller à l'étranger. Moi, je travaillais pour des étrangers. Donc, on est allé en Tunisie, on est allé en Grèce. On a passé 6 ou 8 mois en Grèce, 1 an en Tunisie. Puis après, on est parti en Angleterre. On a vécu un peu en Angleterre. Après, je suis parti, j'ai eu un contrat en Indonésie. Donc là, l'Indonésie, c'était un peu délicat d'emmener toute la famille puisque c'était des vols assez particuliers. Donc je suis resté 1 an en Indonésie. C'était assez dur parce que je ne voyais plus ni ma femme ni mon fils. Où je les voyais une fois tous les 2-3 mois. Après, je suis revenu et j'ai trouvé un emploi en Italie. Donc on est allé vivre à Milan pendant une petite année. Après Milan, j'étais vraiment en recherche d'un emploi fixe dans une compagnie un peu grande et stable, et j'ai trouvé Ryanair. Mmh. Et je suis allé bosser comme pilote chez Ryanair. Donc je suis allé en Angleterre, on a acheté une maison et on a vécu en Angleterre un petit peu. La maman n'était pas très contente de l'Angleterre parce qu'il ne faisait pas beau et puis elle ne parlait pas bien l'anglais, jusqu'à ce que je trouve un travail en Chine.
Donc vous êtes tous partis là-bas.
Donc on est tous partis en Chine, et là c'était vraiment une compagnie, c'est un chasseur de tête qui m'a trouvé, qui opérait des Boeing 747-400, cargo seulement, donc c'était bien.
C'est des gros trucs, j'ai pas les langages.
Alors, le 747-400, c'est un avion qui faisait en masse maximum au décollage 412 tonnes, donc c'est énorme. Faisait des vols de plus de 14 heures. Donc pour moi, j'étais dans la compagnie qui allait me faire... moi, j'avais 45, 46 ans à cette époque-là. Je me suis dit, je fais ma vie jusqu'à la fin, là. Je vais rester là. En plus, le rêve de tout pilote, c'est de devenir commandant de bord sur Boeing 747. C'était le plus gros avion de... L'Airbus 380 n'existait pas, où il était en passe de le devenir. Donc, c'était le plus gros avion du monde.
Donc là, tu t'es dit, je suis au sommet de ma vie.
Je suis au sommet de ma carrière.
En Chine, ça allait bien, la vie, tout le monde s'y adaptait bien.
J'avais un salaire qui était supérieur aux pilotes d'Air France, hein. On gagnait à l'époque beaucoup d'argent. Les Chinois payaient cher, les pilotes. Des conditions de travail difficiles, parce que les Chinois ne payent pas pour rien.
Oui, forcément.
S'ils te payent, ils te font travailler. Et ils te font travailler en temps, en heure. Enfin, ils prennent tout, ce qui est prenable. C'est leur système. Hein. J'avais signé pour ça, donc j'étais d'accord. Les 6 premières années, nous étions tous ensemble. Encore une fois, une banqueroute. Mais ce n'était pas une banqueroute, c'était une dissolution volontaire. Cette compagnie sur 747 a décidé de s'arrêter. Ils ont fait une dissolution volontaire pour des raisons politiques et économiques entre le management allemand et le management chinois qui ne s'entendaient pas. Donc, ils ont décidé de fermer la compagnie. Et là, les victimes sont toujours les employés, évidemment. Donc, ils ont fermé. Ils nous ont mis à la porte, tout simplement. Au lieu de nous donner ce qui était prévu sur le contrat, c'est-à-dire des compensations de licenciement, ils nous en ont donné des cacahuètes, on va dire. Mmh. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir vivre. Et donc, je me suis retrouvé donc, sans travail. Voilà.
Quasi du jour au lendemain.
Alors, un petit peu avant ça, et c'est là que se joue tout, en fait, c'est à ce moment-là que tout se joue. C'est qu'avec cet emploi où je gagnais très très bien ma vie, où j'avais des conditions extraordinaires, et pour moi, il n'était quasiment impossible que cette compagnie fasse un arrêt de travail ou une banqueroute, puisque le cargo en Chine était en plein essor, en plein développement, donc il n'y avait que de la croissance de prévisible. Il ne pouvait pas y avoir autre chose. Donc, j'avais 2 chevaux sur lesquels je pouvais vraiment faire tapis de tout mon argent. Je me suis dit, donc ça c'était... après 3 ans de travail dans cette compagnie, je me suis dit, moi, je ne vais pas vivre toute ma vie pilote, parce que c'est un métier difficile. Hein. Les conditions telles que je les vivais en Chine étaient très dures au niveau physique, puisque il faut savoir que quand je partais voler, je restais 22 heures de duty time, de temps de travail. Ouais. On avait 18 heures de repos, puis on revenait de la même façon. Et après, j'avais 3-4 jours de repos et c'était reparti. Donc, c'était des conditions difficiles physiquement. Ouais. Et il y a une face cachée qui est la difficulté physique. C'est un métier physiquement difficile. Mmh. Le décalage horaire, les horaires décalés, on vit le soir, la nuit, le matin, on est toujours à l'autre bout du monde en permanence. Ça semble être une vie de rêve, mais ça ne l'est pas. Mmh. C'est un côté très difficile. Donc je me suis dit, je dois prévoir ma retraite. Comme je travaille en Chine, il n'y a pas de retraite et que j'ai très peu travaillé en France, je n'aurai pas de retraite. Donc, je dois prévoir ma retraite. Comment faire ? J'ai un peu d'argent de côté et je décide de faire un projet immobilier à Fayence, à côté du golfe des Terres Blanches. J'ai l'opportunité d'acheter un endroit qui est un grand terrain de plus de 3000 mètres.
Dans le sud de la France.
Dans le sud de la France. Et la mairie m'autorise à faire un lotissement de 7 maisons sur ce terrain.
Ok, donc un gros projet immobilier.
Un gros projet immobilier. Mais moi, je ne suis pas entrepreneur. Je ne suis pas homme d'affaires non plus. Et je m'improvise un peu comme homme d'affaires et comme entrepreneur. À cet effet, je m'associe avec un ami, il faut le dire, c'était un ami, mais qui lui est sur la fin. Il est fatigué de faire de la promotion immobilière. Mais ça, je ne m'en rends pas compte. Il a pas la pêche, on va dire, quelque part. Ça le branche. Il le fait parce que je suis ami avec lui, mais il va m'aider. Mais j'aurais dû prendre quelqu'un qui avait faim.
Tu investis quasiment tout dedans.
J'investis tout, plus toutes mes économies, plus j'hypothèque toute ma maison. Une maison qui a été évaluée à l'époque par la BNP à 1 million et quelques. Et donc, je fais tapis complet. Je pousse comme à la roulette. Je pousse tous mes pions sur un seul numéro, le lotissement.
Tu étais persuadé que ça allait fonctionner.
J'étais sûr. J'avais mon travail qui était garanti. Lufthansa Cargo et Air China, c'était impossible que je sois licencié. Sauf grave erreur professionnelle, mais je savais que je n'en ferais pas, puisque j'avais confiance. Alors, j'ai péché par excès de confiance, je pense. Hein. C'est un peu l'analyse que j'en fais aujourd'hui. Donc, tout miser là-dessus, sur un seul cheval. Et quand cette compagnie, donc Jade Cargo, ça s'appelait Jade Cargo, fait la dissolution volontaire, je me retrouve avec un crédit de 12 000 à 13 000 euros par mois et plus de revenus, quoi, plus rien. Et j'ai pas un centime d'économie à côté. J'attends juste le salaire pour payer et vivre, payer, vivre.
Ouais, puisque tu as la famille à côté, il faut entretenir. Il faut vivre. Quoi.
Voilà, mais alors là, on diminue un peu la voilure. On ne fait plus des vacances comme on le faisait avant. Ben c'est le temps de faire le projet. Après, ça reviendra. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise demain, ben c'est fini, c'est fermé, vous n'avez plus de salaire. Plus, il y avait 3 mois où on avait accepté de ne pas recevoir de salaire pour aider la compagnie. Donc, j'avais 3 mois de retard de salaire. Plus, il n'y a pas de compensation de départ. Donc, je me retrouve en Chine avec toute ma famille sans plus un argent sur le compte en banque, c'est-à-dire zéro.
Tu te dis quoi à ce moment-là ? Comment
je me dis, mais je fais quoi ? Donc, j'essaie d'appeler des amis, mais à ce moment-là, tout le monde est... Bon, c'est toujours pareil, il y a des amis qui aident. Hein. Je remercie tous mes amis qui m'ont aidé. Mais là, ce moment-là précis, j'ai un visa qui arrive à échéance. Pour moi et pour ma famille, je dois partir. Je n'ai pas un seul centime pour partir. À ce moment-là, je n'ai pas le choix que de demander... À la compagnie Lufthansa qui fait partie de Lufthansa Cargo, donnez-moi des billets pour rentrer parce que j'ai plus de sous, j'ai plus rien.
Parce que tu voulais rentrer, tu voulais pas rester en Chine.
C'était impossible. Si on n'a pas de travail en Chine, on ne peut pas rester en Chine.
Ouais, ils vous ont pas proposé quelque chose à côté, genre un autre travail ou quoi ?
Non, rien du tout. Pour l'instant, rien du tout. C'était voilà, c'est fini. Vous finissez votre visa à partir de là, vous n'avez plus de travail et caduque à partir depuis hier peut-être même. C'était
tout en même temps en fait.
Tout en même temps.
Tous les événements en même temps.
Plus il faut laisser sa maison. Je louais une maison. On avait des meubles, on avait enfin tout quoi. Donc je peux même pas faire un conteneur pour embarquer nos 6 années de vie là-bas tout en famille. Il faut quitter l'école, on est au mois d'avril, les enfants je peux plus payer l'école. Et les écoles c'était des écoles à 30 000 euros l'année quoi. C'est des écoles privées, il y a pas d'école pour les Français comme ici gratuite tu vois. Donc je dois tout quitter, tout partir. Et là j'ai rien et je me dis je fais quoi, je sais plus quoi faire. Il me reste qu'une solution, je vais voir le PDG, le CEO de la compagnie. Je monte dans son bureau, évidemment, toutes les barrières de secrétaire. Alors, il faut monter au 36e étage, toutes les barrières des secrétaires. Ah non, il n'est pas là. Je pousse toutes les portes, je rentre par force. Je m'introduis dans le bureau du pilote. Il avait été il y a longtemps, mais il était le CEO, le Chief Executive Officer de cette compagnie-là. Donc, il était, lui, en lien direct avec Lufthansa. Donc, je savais qu'il pouvait avoir des billets d'avion pour nous. Ce n'était pas possible. Il était allemand, en plus.
C'était ça, ton objectif, trouver les billets
billets pour rentrer, faire rentrer ma famille à la maison. J'ai une maison encore en France, tu vois. Et donc, je vois tout de suite qu'il se ferme, mais je connais... J'ai été dressé dans la rue, donc je connais le langage corporel et le langage des yeux. Et donc, à moi, on ne me la fait pas. Donc je vois dans ses yeux qu'il n'a pas envie de le donner parce qu'il n'a pas envie de s'emmerder, excuse-moi l'expression. Donc et je sens qu'il n'a pas envie. Mais moi, je suis comédien dans l'âme à ce moment-là. Donc je vais à la fenêtre, je lui dis, vous allez aller avoir la mort d'un pilote aujourd'hui dans vos murs et ça, vous serez le responsable. Je vais à la fenêtre du 36e étage, j'ouvre la fenêtre, je monte sur la rambarde, prêt à me jeter, mais loin de moi l'idée de me suicider.
Oui,
Et là, il est venu vers moi. Non, non, Mr. Gill, please, don't do that. Il était tout à coup les yeux apeurés. Je lui dis, vous faites le billet tout de suite, vous appelez, sinon je saute. Et parce que j'avais plus d'autre solution que
c'est
ça.
C'est ça, toi, c'était la solution
et puis,
finale.
Il a appelé et puis il me dit, bon, mais vous revenez demain. Et alors, j'ai dit, non, c'est tout de suite. C'est pas demain parce que je connais votre langage. Demain, je vais venir, vous ne serez pas là. Et donc, il a appelé, il a fait les billets et je suis reparti avec mes 5 billets.
Ah, comme quoi, t'es un bon acteur.
Voilà, et il m'a dit en partant, please, don't tell anybody. Ne dites rien à personne.
Ouais, donc il t'a pris les billets, toi voilà, donc t'avais réussi ton coup de bluff.
Voilà, j'ai compris qu'il voulait pas les donner. Le fait de me dire ne le dites à personne, c'est qu'il n'était pas gentil au départ. Quoi.
Ouais. Quelque part, faut toujours voilà. Donner tous les moyens possibles et inimaginables.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ginab. Donc, tu as pu rentrer en France finalement?
Donc, j'ai pu rentrer en France. Nous sommes rentrés en France. Là, donc, on avait cette maison-là. J'ai essayé de tenir, tant que faire se peut, le projet de faïence. Donc, j'ai appelé la banque, je dis attendez, je vais vous payer, donnez-moi un moratoire de paiement. Alors, ça m'a été autorisé, mais n'ayant pas de boulot dans les 3-4 mois qui ont suivi, évidemment, la dette s'est élevée à plusieurs centaines de milliers d'euros, dont je ne pouvais pas garder. Donc, tout a été mis en vente par adjudication. Donc, j'ai perdu le projet qui a été vendu, bon, pour la petite histoire, hein, le projet, je l'ai acheté 600 000 euros, il a été vendu 130 000 euros. Ah. Et la maison qui avait été évaluée, dans laquelle nous vivions, a été évaluée à 1 080 000, je crois, 1 100 000, pas loin, a été vendue 330 000 euros. Donc je me suis retrouvé avec plus rien, plus de maison, plus de projet. La maison en Angleterre vendue pour vivre, pour le peu qui me restait, parce qu'une fois payé le crédit, il me restait 20 000 euros, quelque chose comme ça. Donc j'ai pu récupérer ces 20 000 pour vivre tous les jours. Donc on a été éjecté de la maison, il a fallu partir de la maison. Le projet, et puis là, j'ai trouvé, en Chine, ils m'ont redonné du travail.
Ah.
Donc ils m'ont redonné du travail. La compagnie qui était une des compagnies qui est du sud de la Chine, qui s'appelait Shenzhen Airlines, m'ont appelé pour que je redevienne pilote chez eux sur Airbus 320. J'ai pris le travail et je suis reparti là-bas. Mais j'avais un âge qui arrivait au bout de l'âge de travail pour les Chinois, qui est 60 ans. Donc, j'ai pu faire 6 années. Pendant ces 6 années, je me suis redressé un petit peu. J'ai pas pu mettre de côté parce que la BNP prenait beaucoup sur le salaire en France. Bon, j'ai caché que je travaillais en Chine, évidemment. Il a fallu que je mente encore une fois pour arriver à vivre. C'est compliqué. Donc, j'étais un peu dans l'illégalité de vie. C'était compliqué, je dois dire. Alors,
il n'y a que
le fisc qui savait que je travaillais là-bas parce que j'avais déclaré le travail là-bas.
Okay.
Mais sinon...
Vous êtes tous repartis en Chine ou il n'y avait que toi qui faisais
l'aller-retour ? Non, mon ex-épouse n'a pas voulu parce que... Alors, je dis mon ex-épouse parce que tu te rends bien compte qu'après toutes ces péripéties, même si on est en amour, toujours, même si on a 3 enfants, le couple s'est délité un petit peu. Mmh. Et puis, s'en est suivi donc des choses assez difficiles à vivre pour toute la famille parce que d'abord, je n'étais pas souvent à la maison. Donc, la mère des enfants était toujours avec les enfants. malgré le fait que je lui donnais beaucoup d'argent pour vivre, parce que je gagnais à nouveau à peu près bien ma vie, pas autant qu'avant, mais je gagnais assez bien ma vie, pour, en tout cas pour pouvoir vivre normalement, je dirais, puisque là, les salaires étaient différents de la grosse compagnie Cargo, puisque là, c'était un contrat à un nouveau chinois, mais d'une compagnie sur des plus petits avions, donc des salaires qui étaient encore décents, mais... Pour la vie que je menais, faire des voyages presque tous les mois, venir en France, on n'a pas de billets particuliers, il faut payer des billets pleins, il faut que je me loge en Chine, il faut que je loge ici en France, donc il a fallu qu'on loue une maison ici, les écoles, donc tout ça faisait que je ne pouvais pas mettre de sous de côté. Le couple se délite, la maman perd un peu pied, je dirais. Il se passe des choses difficiles à dire ici, sur le... qui fait que c'est moi qui hérite de la garde des enfants. Donc j'arrive à 60 ans. Je dois quitter la Chine parce que je n'ai plus de travail, puisque j'ai 60 ans.
Ah oui.
J'arrive en France, j'ai la garde des enfants et je n'ai pas de travail. Et je me retrouve avec une retraite de 1000 euros par mois.
Et tu avais trois enfants à ta charge.
Et j'avais les trois enfants à ma charge à ce moment-là. Donc c'est difficile. Je reçois une prime de fin de travail en Chine qui est de 25 000 euros. Je décide alors ici de faire quelque chose avec ces 25 000 euros. On habite au camping, dans un camping au milieu, dans un mobil-home, les trois enfants. Et la maman doit travailler, donc elle travaille toute seule. C'est moi qui ai la garde des enfants. Pour l'instant, le jugement n'est pas prononcé, donc il n'y a pas de pension alimentaire, il n'y a rien. Et je décide avec les enfants, puisque je suis cuisinier à côté de passion, je monte un restaurant fast-food italien qui s'appelait Casa Pasta à Draguignan. Avec mon fils et ma fille, la grande, puisque la petite, donc avec Louis et Carla, on travaille tous les trois ensemble. Et on ouvre le restaurant. On l'ouvre, donc tout l'été, on fait la décoration. On ouvre en septembre. Et en octobre, il y a le confinement, le premier confinement. Et on ferme pendant 8 mois.
Oh, en fait, surtout... À chaque fois, les étoiles ne sont pas alignées. Y a personne ne veut te donner ta chance. Quoi.
C'est incroyable. Alors, pendant 8 mois, il faut payer les loyers. Il y a plus de 1 000 euros de loyer. Je te parle pas des 25 000 euros que j'avais de côté volant en éclats, en fumée.
Bah, oui.
On n'a pas de chiffre, donc on n'a pas d'aide comme c'était prévu pour les gens qui ont plus d'un an de travail. On arrive à obtenir quelques petits prêts. Par l'un et par l'autre, toujours par l'État, hein, donc, qui viennent nous faire vivre un petit peu. Donc c'est bien. Finalement, on rouvre après 8 mois de confinement et de fermeture totale. Non seulement je n'ai pas pu travailler pendant tout ça, j'ai dépensé tout mon argent, j'ai toujours ma famille à charge que je dois nourrir et puis c'est difficile. On a travaillé dur pour tout ça et non, là, on n'a plus rien. Les propriétaires qui demandent les loyers,
fonctionne ou pas ?
Pardon ?
Le resto, il fonctionne à ce moment-là ou
Alors là, je suis toujours fermé. On commence à rouvrir et on ouvre. Mais à ce moment-là, ils mettent autre chose. Ils mettent le pass vaccinal. Et puis après, on nous dit, trop tard, maintenant, il y a des travaux qui vont se faire dans la rue. On va fermer votre restaurant. Et donc, on nous dit, voilà. Donc, je n'ai pas de contrat de bail. J'ai qu'un bail précaire. Donc, c'est un bail qui n'a pas de fonds de commerce. Et donc, la mairie, gentiment, me donne 5 000 euros et me dit, voilà, ça, c'est pour partir. Donc, je prends 5 000 euros, je ferme le restaurant et je me retrouve avec plus rien, encore une fois.
Comment tu as fait pour ne pas perdre pied, pour garder le moral, pour...
Le moral, j'avoue qu'il y a eu des fois où... en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que la vérité de notre vie, ce n'est pas l'argent... C'est l'amour qu'on a. Et cet amour-là, je l'ai avec mes enfants. Et je me mettais à la place de la mère qui ne les a pas tout le temps. Moi, je les ai tout le temps.
C'est ça qui t'apportait ? C'est leur
mes
amour.
Mes enfants m'ont tout apporté. Je peux être sans le sou, sans aucun argent. Du moment que j'ai la présence de mes enfants avec moi, on a l'amour. Mmh. Et l'amour, c'est ça le million qu'on a dans la vie. C'est l'amour. L'amour de ce que l'on aime et alors évidemment il faut un peu d'argent pour vivre, ça on est obligé de l'avoir, mais sincèrement si on a l'argent, aujourd'hui tu peux me donner tout l'or du monde, tu m'enlèves mes enfants, je suis le plus pauvre du monde. qu'est-ce que je pourrais me payer, tous les hôtels de luxe, tous les voyages dans les premières classes, en jet privé, avec tu peux me donner le pouvoir, me faire devenir président de la République, président du monde. Si je n'ai plus les enfants, je fais quoi? Ça ne m'intéresserait pas. J'aurais qu'une envie, c'est de mourir aussi. Donc la vraie fortune, ce sont nos enfants. Et j'ai du mal à comprendre, moi ma vie est tournée vers mes enfants, même si je suis un homme et j'aime bien ma vie privée, ma vie personnelle aussi, mais je donne ma vie pour eux parce que ma mère a donné sa vie pour moi, tu vois. Et donc je reproduis ce que je trouve être la vérité de la vie. La vie c'est ça, c'est rien d'autre, il n'y a rien d'autre. C'est le message que je devrais faire passer aujourd'hui, c'est un peu celui-là, c'est occupez-vous de vos enfants et aimez-les avant. L'éducation, c'est pas de devoir leur inculquer des valeurs. Les valeurs, c'est l'exemple que vous donnez à vos enfants. On donne un exemple et on n'est pas là pour. Alors, il faut les corriger un petit peu. Quand je dis corriger, c'est.
On fait tous des bêtises.
On fait tous des bêtises des fois pour les construire. Un peu comme ma mère quand elle m'a dit ne me déçois pas. Voilà, c'est les diriger sur un chemin qui est un chemin de vie. Honnête, juste et surtout être juste, c'est ça le plus important.
C'est super beau ce que tu dis parce que t'as vécu plein de trucs et t'aurais pu, comme au moment où t'étais au plus haut, te perdre un peu pied, te dire bah, je peux tout avoir, il y en a qui, tu vois, perdent un peu la tête. Ouais. Et au moment où t'étais au plus bas, te dire bah, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et c'est beau que la famille et tes enfants, c'est vraiment ça qui t'a fait tenir sur toute la durée et qui t'a sorti de toutes les situations. Quoi.
Exact. Et alors, je me souviens, j'avais acheté un. Quand on a quitté notre première maison, où on a été mis dehors, j'avais acheté en Thaïlande une sculpture en bois où en anglais, il est écrit dessus « Love, make a house a home ». L'amour fait d'une maison un foyer. Et donc, quand on est parti, les enfants étaient encore petits, on s'est mis dans la salle, tout était vide en fait. Hein, et c'était la maison de famille en fait. Et je leur ai dit, voilà, on a posé le gros bout de bois au milieu. Et je lui dis, ça, c'est nous, c'est nous. Alors, je lui dis, la maison est faite de quoi? Alors, on a réfléchi. Alors, la petite a dit, oh, ben, c'est des pierres, des briques, c'est du ciment, c'est des arbres, ce sont des arbres, ce sont ceci, c'est des carrelages, c'est des tuiles. Voilà, on a cité tout ça. Je leur ai dit, ça, ce ne sont que des matériaux. Donc, ça n'a pas d'âme en soi. Je lui dis, ce qui fait la maison, c'est nous, c'est l'amour qu'on y apporte. Et ce bout de bois... Love make a house a home. C'est la représentation de notre amour. Et on va le prendre avec nous. La petite, elle sera, tu es la responsable de porter ça dans l'autre maison dans laquelle nous allons vivre. Et cette maison deviendra notre foyer. Et on oublie celle-là, puisque celle-là, ce n'est que du matériel. On se moque qu'elle fasse 300 mètres carrés ou 400 mètres carrés avec la piscine et tout, ce qu'il y avait dedans. Piscine qui n'était pas encore finie du reste, mais bon, qui était prête à être finie. Et on va la porter dans une autre maison et ça deviendra notre foyer. Et là, il y aura tout l'amour au même titre qu'il est ici. Et c'est une parabole que j'aime bien citer. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir l'accès à... pour le moment, parce que... À un logement social. Du reste, que je n'ai plus payé depuis quelques mois. Et donc, ils m'ont envoyé l'ordre d'expulsion. Donc, je pense que cet été, on va être expulsé. Parce que je n'ai plus que 1 000 euros par mois pour vivre. Donc, 700 euros, après, je n'ai plus rien. Parce que l'histoire continue aujourd'hui. Hein.
Oui, maintenant, t'en es où?
L'histoire n'est pas finie. Ouais. Donc, toutes les suites de ça, c'est pareil. Je cherche du travail beaucoup, un peu partout. Mais à 65 ans, qui veut... Bon, je suis en pleine forme. Je vais à la gym tous les matins. Après cette histoire de Casa Pasta, bon, là, on est un peu à bâton rompu, hein. J'avais commencé à écrire et je me suis dit ben je vais faire cette histoire, je vais mettre toute cette colère que j'ai parce que j'en ai un peu après moi en premier lieu de ne pas avoir été clairvoyant, je dirais, parce que j'aurais dû comprendre que j'étais dans un système qui est une vraie jungle en fait, tu vois, et on croit qu'on est dans un système juste, mais en fait moi, j'étais un petit agneau quelque part.
T'étais trop gentil. Tu croyais que tout était rose et...
Oui, je me suis dit, je fais un projet. Il y a le budget est bon, ça c'est bon. On ignore qu'il y a des gens qui autour, ils veulent vraiment arracher les choses aux autres. Et donc, dans ce livre, je mets en place cette colère à travers un roman qui est un peu un roman, le roman du Comte de Monte Cristo. version moderne, ou quelqu'un qui croit dans ce système-là, qui fait partie du système. Alors, j'ai mélangé, j'en ai fait un personnage qui s'appelle Marius, qui travaille proche du président de la République, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, que j'ai inventé, c'est en 2027. Mm-hmm. Donc, c'est celui qui a remplacé Emmanuel Macron, on va dire, aujourd'hui. Ce personnage, Marius, est trahi par ses instances, un peu comme je me sens... on est tous responsables de son roman, quelque part. Hein. On écrit sa vie comme on le veut. On peut changer. Toi, demain, tu veux changer et arrêter ce que tu fais, tu peux le faire, tu as le droit. Dès lors que tu as envie d'aller vivre avec les Inuits, demain, tu peux le décider.
Bon, c'est vrai.
Et on peut tout décider dans la vie. Notre vie, c'est une fiction, en fait. Et donc, cette fiction, je la mets dans ce livre-là. Lui est trahi et puis se met en place une vengeance et puis après une rédemption. Donc, c'est une trilogie.
Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle la trilogie. Le nom de la trilogie, c'est La révolte des intraitables. Et le premier livre s'appelle Mascarade d'État. Le deuxième sera, il est en cours, je l'ai presque fini, s'appelle Chasseur d'élite. Et le troisième, Rédemption.
Et ça t'a aidé d'écrire ?
Ça m'a aidé, ça a été une thérapie. Alors, je compte beaucoup sur ce livre pour non pas me faire devenir riche, parce que je n'ai pas cette intention tout de suite, ce n'est pas ce qui me vient à l'esprit, mais au moins pouvoir vivre de mes écrits et pouvoir continuer mes écrits. En fait, au moins pouvoir les imprimer, les vendre et faire la promotion. Je ne suis pas écrivain professionnel, donc le premier livre, dans ce premier livre, il y a beaucoup de fautes et d'orthographe et de style grammaticule, voilà, des figures de style et tout ça. Donc je sais que je vais être critiqué beaucoup, mais s'exposer...
Mais tu l'as fait tout seul, du coup, t'as pas de maison d'édition ou quoi ?
Je l'ai fait tout seul, je n'ai pas de maison d'édition parce que je veux pas vendre mes droits d'auteur. Mm-hmm. Je veux les garder pour moi, parce que ce livre-là peut être réalisé en série filmable, on peut faire un film de ça, parce que c'est en même temps, c'est moderne. C'est policier, c'est un peu militaire.
J'espère que ça va fonctionner et que tu toucheras les personnes que tu as envie de toucher. La dernière question du podcast, c'est... je fais ça souvent aux personnes qui viennent. Est-ce que tu as un message simple à faire passer aux personnes qui écoutent, aux jeunes ? La plupart, c'est des jeunes qui nous entendent.
Alors, le message que je passerai, c'est le message de Saint-Exupéry, qui était pilote d'avion et que tout le monde peut-être connaît. En fait, je vais t'en passer deux de messages. Le premier message de Saint-Exupéry, il le marque dans Le Petit Prince et il dit si bien cela quand le Petit Prince, quand Saint-Exupéry rencontre le Petit Prince dans le désert, le Petit Prince lui dit on ne voit bien qu'avec son cœur. L'essentiel est invisible. On voit pas avec les yeux en fait. On voit bien qu'avec le cœur. Donc c'est le message que je dirais. L'essentiel est invisible, on ne voit bien qu'avec son cœur. Ça, c'est okay. Le message du Saint-Exupéry que je passerai.
C'est une belle phrase.
Et le deuxième, c'est un proverbe que j'ai appris en Chine, qui vient un peu du taoïsme. Alors, les Chinois en anglais, on va le traduire en français, mais je pourrais le dire en anglais, parce qu'en anglais, je trouve qu'il sonne mieux. Ils disent « Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a present. And that's why it's a gift, that's why we name it present. » Ah, donc, c'est... yesterday is history.
Ouais, donc hier c'est
tomorrow
l'histoire.
Is a mystery.
Demain c'est un mystère.
Un mystère.
Et aujourd'hui.
And today is a gift. That's why we name it present.
Ok, bon, c'est beau. J'avais jamais entendu cette phrase.
D'accord.
En français on dit un présent. Je vous fais ce présent.
Vrai. Et ben super, on finit sur une belle note.
Voilà.
Merci beaucoup Eric d'être venu dans le podcast raconter ton histoire. C'était hyper intéressant et très touchant.
Je te remercie Zoé moi de m'avoir sélectionné pour ton podcast et je suis vraiment très fier d'être passé avec toi. Ça m'a vraiment touché. Je ne pensais pas que mon histoire puisse intéresser quelqu'un et quand on a fait le visio ensemble, c'est là que ça a cliqué, ça a flashé, ouais. Ça a matché, quoi, je dirais.
Mais je pense que ça va parler à beaucoup de monde et j'espère à vous qui nous écoutez que vous avez aimé l'histoire d'Eric.
Je remercie les auditeurs aussi d'aimer mon histoire. Et d'en tirer une petite leçon de vie et se dire que ce n'est pas parce qu'on est au sommet de sa réussite et qu'elle soit financière ou de carrière qu'on ne peut pas retomber très, 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 très bas. Et quand on tombe bas, dans la, jusqu'à être sans abri, hein, ça peut durer encore longtemps. Et peut-être qu'il y a pire que ce que j'ai. Mmh. Parce que peut-être demain, on va me dire que je ne sais pas.
On ne prévoit pas. C'est un mystère.
C'est un mystère, voilà. Exact. Voilà.
Merci beaucoup. Je vous dis à tous à mardi prochain pour le prochain épisode. Cordialement, Zoé.
Cordialement.